Livre 13, chapitre 2. Ce qui survint à M. Jones à son arrivée à Londres. Le savant docteur mis au bain avait coutume de dire que la manière la plus convenable de lui écrire était de mettre ainsi son adresse. Au docteur mis au bain dans le monde, donnant à entendre par là qu'il y avait peu de gens à qui sa réputation ne fût parvenue. Et peut-être, après avoir examiné la chose très scrupuleusement, trouverons-nous en effet que de nombreux avantages dont jouit la grandeur, celui-ci n'est pas le moindre. Le bonheur suprême de parvenir à la postérité est le partage du petit nombre. Faire répéter 1000 ans après nous, pour me servir des expressions de Sydenham, le petit nombre de syllabes qui composent nos noms est un avantage que ne peuvent procurer les titres ni les richesses. Et je ne vois guère d'autre moyen de l'acquérir que l'épée ou la plume. Mais éviter, pendant que l'on vit encore, l'imputation scandaleuse d'être un homme que personne ne connaît, scandale, pour le dire en passant, aussi vieux que le siècle d'Homère, sera toujours l'ambition de ceux qui ont un titre légal aux honneurs ou à la fortune. En conséquence, d'après la figure qu'a déjà faite dans cette histoire le père d'Irlande qui a conduit Sophie à Londres, le lecteur conclura infailliblement que rien n'aurait dû être plus facile que de découvrir sa maison, sans même connaître la rue ni la place où elle était située, puisqu'il devait être du nombre de ceux que le monde connaît. À dire vrai, rien n'eût été plus aisé pour un de ces marchands accoutumés à fréquenter les palais des grands, dont les portes ne sont pas en général moins aisées à trouver que difficiles à ouvrir. Mais Jones, ainsi que Partridge, était entièrement étranger à Londres. Et comme il était arrivé d'abord dans un quartier de la ville dont les habitants ont fort peu de relations avec ceux du quartier d'Hanovre ou de Grosvenor Square, car il était entré par Gray's Inn Lane, il erra quelque temps avant d'avoir trouvé le chemin qui devait le conduire à ses heureuses demeures où la fortune séquestre, loin du vulgaire, ses magnanimes héros, descendants des anciens Bretons, Saxons et Danois, dont les ancêtres, nés dans de meilleurs temps, ont, par diverses sortes de méthodes, substitué de génération en génération les richesses et les honneurs à leur postérité. Jones, arrivé enfin à ce terrestre élysé, eut bientôt découvert la demeure de Milord. Mais malheureusement, le père avait quitté son ancienne maison en partant pour l'Irlande. Et comme il venait seulement de s'établir dans la nouvelle, le bruit de son équipage n'avait pas encore suffisamment retenti dans le quartier. De sorte qu'après une recherche infructueuse qui dura jusqu'à 11 heures, Jones céda enfin à l'avis de Partridge et se retira à l'auberge de Bullengate dans Holborn, où il était descendu en arrivant. Il se mit au lit aussitôt et y goûta ce doux repos dont jouissent ordinairement ceux qui se trouvent dans la même situation que lui. Le lendemain matin, de bonne heure, il se remit à la recherche de Sophie et se fatigua encore longtemps, sans plus de succès que la veille. Enfin, soit que la fortune s'adoucit en sa faveur, soit qu'il ne fût pas plus longtemps en son pouvoir de frustrer son attente, il arriva dans la rue qui était honorée par la résidence de Milord. On lui indiqua sa maison, et il frappa un petit coup à la porte. Le portier, qui, d'après la modestie du coup, n'avait pas conçu une haute idée de la personne qui venait, n'en conçut guère une meilleure à la vue de M. Jones, qui était vêtu d'un habit de bure et portait à son côté l'arme qu'il avait dernièrement achetée du sergent, dont la lame était d'un excellent acier, mais dont la poignée n'était que de cuivre, et non du plus brillant. Ce qui fit que quand Jones demanda à la jeune dame qui était arrivée avec Milord, ce maraud lui répondit insolemment qu'il n'y avait point de dame. Jones demanda alors à voir le maître de la maison, mais on lui répondit que Milord ne verrait personne de la matinée. Et comme il devenait plus pressant, le portier lui dit qu'il avait des ordres positifs de ne laisser entrer personne. « Mais, ajouta-t-il, si vous jugez à propos de laisser votre nom, j'en instruirai Milord. Et si vous revenez une autre fois, vous saurez quand il pourra vous voir. » Jones insista sur ce qu'il avait des affaires très particulières à communiquer à la jeune dame, et dit qu'il ne pouvait s'en aller sans la voir. Sur quoi le portier, d'une voix et d'un air peu agréable, affirma de nouveau qu'il n'y avait pas de jeune dame dans la maison, et que conséquemment, il ne pouvait pas en voir, ajoutant vous êtes assurément l'homme le plus étrange que j'aie jamais rencontré, car vous ne voulez prendre aucune réponse pour bonne. J'ai souvent pensé qu'en faisant d'une manière si détaillée, dans le 6e livre de l'Énéide, la description de Cerbère, portier des enfers, Virgile avait peut-être eu l'intention de faire la satire des portiers des gens considérables de son temps. Le portrait ressemble au moins à ceux qui ont l'honneur de garder les portes de nos grands. Le portier dans sa loge ressemble exactement à Cerbère dans son antre, et a besoin, comme lui, d'être apaisé par un morceau de pain trempé avant qu'on puisse obtenir accès auprès de son maître. Jones aurait peut-être dû considérer plutôt le portier sous ce point de vue et se rappeler le passage où la Sibylle, pour introduire Énée, offre un présent de cette nature au gardien de la venue du Styx. Enfin, il se mettait en devoir d'en faire un à peu près semblable au Cerbère humain, quand un laquais qui l'entendit s'avança et dit que si M. Jones voulait lui donner la somme en question, il le conduirait chez la dame. Jones y consentit et fut conduit sur le champ au logement de Mrs. Fitzpatrick par le même homme qui la veille avait accompagné les deux dames. Rien n'aggrave davantage la peine d'un mauvais succès que d'avoir été tout près d'en obtenir un bon. Le joueur, qui perd la partie au piquet pour un point, déplore son malheur 10 fois autant que celui qui n'a pas eu un seul moment l'espérance de gagner. Il en est de même de la loterie. Ceux qui ont mis sur les nombres les plus prochains de celui qui a gagné le gros lot sont portés à se considérer comme beaucoup plus malheureux que les autres perdants. En un mot, ces sortes de malheurs, si voisins du bonheur, ont l'air d'insultes que nous fait la fortune, qui semble nous jouer des tours et, de gaieté de cœur, se divertir à nos dépens. Jones, qui avait déjà plus d'une fois éprouvé les caprices fantasques de cette divinité païenne, fut encore condamné en cette circonstance à subir la destinée de Tantale, car il arriva à la porte de Mrs. Fitzpatrick 10 minutes environ après le départ de Sophie. Il s'adressa à la femme de chambre de Mrs. Fitzpatrick, qui lui apprit la fâcheuse nouvelle que Sophie était partie sans pouvoir lui dire où elle était allée. Et il reçut bientôt, après la même réponse de la part de Mrs. Fitzpatrick elle-même, car cette dame, ne faisant aucun doute que M. Jones ne fût un espion envoyé par son oncle Weston à la recherche de sa fille, avait trop de générosité pour la trahir. Quoique Jones n'eût jamais vu Mrs. Fitzpatrick, il avait ouï dire qu'une cousine de Sophie avait épousé un gentilhomme de ce nom. Dans le trouble qu'il éprouvait alors, ce fait ne s'était pas d'abord présenté à sa mémoire. Mais quand le domestique qui le reconduisait l'eut instruit de la grande intimité qui existait entre les deux dames et du nom de cousine qu'elles se donnaient mutuellement, il se rappela le mariage dont il avait entendu parler. Et convaincu que c'était la même dame, il en fut d'autant plus surpris de la réponse qu'il avait reçue, et fit demander avec beaucoup d'instance la permission de lui parler à elle-même. Mais elle lui fit tout aussi positivement refuser cet honneur. Jones, qui, quoiqu'il n'eût jamais vu la cour, était mieux élevé que la plupart de ceux qui la fréquentent, était incapable de se conduire grossièrement avec une femme. Lors donc qu'il eut reçu un refus positif, il se retira après avoir dit à la femme de chambre que, puisque c'était une heure indue pour avoir accès chez sa maîtresse, il reviendrait dans l'après-midi, et qu'il espérait alors avoir l'honneur de la voir. La politesse avec laquelle il prononça ces mots, jointe à l'extrême agrément de sa personne, fit impression sur la femme de chambre, qui ne put s'empêcher de lui répondre « Probablement, monsieur, vous la verrez. » Et en effet, elle dit ensuite à sa maîtresse tout ce qu'elle crut de plus capable de l'engager à recevoir la visite de ce beau jeune homme, car c'est ainsi qu'elle l'appelait. Jones soupçonna très subtilement que Sophie était alors avec sa cousine et refusait de le voir, ce qu'il imputait à son ressentiment de ce qui s'était passé à Upton. En conséquence, après avoir dépêché Partridge pour lui chercher un logement, il demeura tout le jour dans la rue, les yeux fixés sur la porte de la maison où il croyait que son ange était caché. Mais il n'en vit sortir personne qu'un domestique. Et sur le soir, il retourna faire sa visite à Madame Fitzpatrick, qui eut enfin la bonté de le recevoir. Il y a un certain air de noblesse naturelle que l'habillement ne peut ni donner ni cacher. Monsieur Jones, comme il a déjà été dit, le possédait dans un degré très éminent. Il reçut en conséquence de la dame un accueil un peu plus favorable que sa toilette ne semblait l'exiger. Et après lui avoir présenté ses respects, il fut invité à prendre un siège. Je crois que le lecteur ne désire pas infiniment savoir tous les détails de cette conversation, qui finit d'une manière très peu satisfaisante pour le pauvre Jones. Quoique Mrs. Fitzpatrick eut bientôt découvert que c'était un amant, toutes les femmes ayant à cet égard une pénétration admirable, elle pensa en même temps que c'était un amant, telle qu'en amie généreuse, elle ne devait pas lui découvrir où était Sophie. En un mot, elle soupçonna que c'était ce même M. Blifil que Sophie avait fui, et toutes les réponses qu'elle tira adroitement de Jones concernant M. Allworthy la confirmèrent dans cette opinion. Elle refusa donc opiniâtrement de l'instruire du lieu où Sophie s'était retirée, et Jones ne put rien obtenir de plus que la permission de réitérer sa visite le lendemain au soir. Quand Jones fut parti, Mrs. Fitzpatrick communiqua à sa femme de chambre ses soupçons concernant M. Blifil. Celle-ci lui répondit « Oh, sûrement, madame, celui-ci est un trop joli homme, suivant moi, pour qu'aucune femme dans le monde puisse le fuir. Je penserai plutôt que c'est M. Jones. »« M. Jones ?» dit sa maîtresse. « Quel M. Jones ?» Car Sophie n'avait pas dit le plus petit mot d'un individu de ce nom dans toute leur conversation. Mais Mrs. Honora avait été beaucoup plus communicative et avait instruit sa camarade Abigail de toute l'histoire de Jones que celle-ci redit alors à sa maîtresse. Mrs. Fitzpatrick n'eut pas plus tôt entendu ce récit qu'elle adopta l'opinion de sa femme de chambre, et, ce qui est vraiment incroyable, vit dans l'amant favorisé des charmes qu'elle n'avait pas remarqués dans l'amant méprisé. « Betty, dit-elle, vous avez certainement raison. C'est un fort joli garçon, et je ne m'étonne point que la femme de chambre de ma cousine vous ait dit qu'il soit aimé de tant de femmes. Je suis fâchée maintenant de ne pas l'avoir instruit du lieu où était ma cousine. Et cependant, s'il est aussi terriblement débauché que vous le dites, il serait dangereux qu'elle le revît encore. » Car elle ne pourrait que se perdre en épousant un homme sans mœurs et sans fortune, sans le consentement de son père. Il m'est démontré que s'il est tel que cette fille nous l'a dépeint, c'est un devoir de charité de la préserver de lui. Il est certain qu'il serait impardonnable à moi d'en agir autrement, après avoir fait aussi cruellement l'essai des malheurs qui accompagnent toujours ces sortes de mariages. Elle fut interrompue par l'arrivée de quelqu'un, c'était Milord. Et comme il ne se passa dans cette visite rien de nouveau ni d'extraordinaire, ni d'important pour cette histoire, sans aucun rapport, nous terminerons ici ce chapitre. Chapitre 3. Projet de Mrs. Fitzpatrick et sa visite à Lady Bellaston. Mrs. Fitzpatrick, en se couchant, était encore tout occupée de Sophie et de M. Jones. Elle était, il faut en convenir, un peu fâchée contre sa cousine, à cause de la petite dissimulation qu'elle venait de découvrir. Il n'y avait pas longtemps que son imagination s'exerçait sur ce chapitre, lorsqu'il lui vint dans l'esprit que si elle pouvait garantir Sophie des poursuites de Jones et la remettre à son père, un si grand service rendu à sa famille la réconcilierait, suivant toutes les probabilités, avec son oncle et sa tante Weston. Comme c'était un de ses plus chers désirs, l'espoir du succès lui parut si fondé qu'il ne lui restait plus qu'à réfléchir sur les moyens convenables à l'exécution de son projet. Elle ne crut pas devoir entreprendre d'y amener Sophie par la raison. Car Betty, lui ayant rapporté, d'après Mrs. Honora, que Sophie avait une violente inclination pour Jones, elle imagina bien que tenter de la dissuader de ce mariage était un effort du même genre que celui de supplier très tendrement et très sérieusement un papillon de ne pas aller se brûler à la chandelle. Si le lecteur veut bien avoir la bonté de se rappeler que c'était chez Mrs. Weston que Sophie avait fait connaissance avec Lady Bellaston, et que cette connaissance avait dû se faire dans le même temps que Mrs. Fitzpatrick demeurait chez sa tante, il n'aura pas besoin que je lui dise que Mrs. Fitzpatrick devait aussi la connaître. Les deux cousines étaient d'ailleurs ses parentes éloignées. Après y avoir mûrement réfléchi, Elle se détermina donc à aller le lendemain matin de bonne heure chez Lady Bellaston, de tâcher de la voir à l'insu de Sophie et de l'instruire de toute cette affaire. Car elle ne faisait aucun doute que cette dame prudente, qui avait souvent dans la conversation tourné en ridicule les amours romanesques et les mariages d'inclination, n'adopta sans différer son sentiment sur cette union, et ne lui prêta avec ardeur son secours pour la prévenir. Cette résolution prise, elle s'empressa de l'exécuter, et le lendemain matin, avant le lever du soleil, elle s'habilla à la hâte, et à une heure indue, à une heure où les gens, comme il faut, ne font ni ne reçoivent de visite, elle alla chez Lady Bellaston, chez laquelle elle fut reçue, sans que Sophie eût la moindre connaissance ou le moindre soupçon. Car bien qu'elle ne dormît pas, elle était encore dans son lit, Honora ronflant dans le sien à côté d'elle. Mrs. Fitzpatrick s'excusa beaucoup sur une matinée si matinale, si précipitée, à une heure où, dit-elle, elle n'aurait jamais eu la pensée de déranger Milady, si ce n'avait été pour une affaire de la plus haute importance. Elle lui raconta alors tout ce dont il s'agissait, lui répéta tout ce que Betty lui avait dit, et n'oublia pas la visite que Jones lui avait faite à elle-même le soir précédent. Lady Bellaston lui répondit en souriant, « Ainsi donc vous avez vu, madame, cet homme redoutable. Dites-moi, je vous prie, est-il d'une aussi jolie figure qu'on le dit ?» Car Étoffe ne m'a entretenu que de lui hier au soir pendant près de 2 heures. Je crois en vérité que la coquine en est amoureuse sur sa réputation. Je prévois que le lecteur sera ici un peu étonné, mais la vérité est que Mrs. Étoffe, qui avait l'honneur d'habiller et de déshabiller Lady Bellaston, avait reçu des informations très détaillées sur le dit M. Jones et les avait fidèlement rendues à sa maîtresse le soir précédent, ou plutôt le matin même, en la déshabillant, ce qui avait fait durer ses fonctions un peu plus d'une heure et demie. Quoique la dame se plût assez généralement à entendre les récits de Mrs. Étoffe à ces sortes d'heures, je dois convenir qu'elle donna une attention extraordinaire à tout ce qu'elle lui rapportait de Jones, car Honora l'avait représenté comme un très bel homme, et Mrs. Étoffe, dans son empressement à en faire l'éloge, avait encore exagéré sa beauté au point que Lady Bellaston se le figurait déjà comme un miracle de la nature. La curiosité que sa femme de chambre lui avait inspirée fut encore considérablement augmentée par Mrs. Fitzpatrick, qui parla avec autant d'éloge de la personne de Jones qu'elle avait auparavant parlé avec mépris de sa naissance, de son caractère et de sa fortune. Quand Lady Bellaston eut tout entendu, elle répondit gravement, « En effet, madame, ceci est de la plus haute importance. Rien n'est assurément plus louable que le rôle que vous jouez en ce moment. Je serais très heureuse de pouvoir contribuer pour ma part à prévenir la ruine d'une jeune personne d'un mérite aussi distingué et pour laquelle j'ai tant d'estime. Milady, ne pense-t-elle pas, dit aussitôt Mrs. Fitzpatrick, que le meilleur moyen serait d'écrire sur le champ à mon oncle et de l'instruire du lieu où est ma cousine ? Milady réfléchit un peu et répondit, « Pourquoi cela ? Non, madame. Je pense que non. Mrs. Weston m'a dépeint son frère comme un tel brutal que je ne puis consentir à remettre en son pouvoir une personne de son sexe qui a eu le bonheur de s'y soustraire. J'ai entendu dire qu'il s'était conduit comme un monstre avec sa femme, car c'est un de ces misérables qui s'arroge le droit de nous tyranniser, et je croirais toujours servir la cause de mon sexe en affranchissant du joug de ses pareils toute femme qui sera assez malheureuse pour se trouver en leur puissance. Il ne s'agit, chère cousine, que d'empêcher Miss Weston de voir ce jeune homme jusqu'à ce que la bonne compagnie qu'elle aura occasion de rencontrer ici lui inspire des idées plus convenables. S'il pouvait découvrir le lieu qu'elle habite, répondit Mrs. Fitzpatrick, vous pouvez être assurée, Milady, qu'il n'est rien qu'il n'entreprit pour parvenir jusqu'à elle. Mais, madame, répliqua Lady Bellaston, il est impossible qu'il vienne ici. Cependant, il serait possible en effet qu'il parvint à découvrir où elle est, et alors il pourrait rôder autour de la maison. Je voudrais en conséquence le connaître personnellement. N'y aurait-il pas quelque moyen, madame, pour que je puisse le voir un moment ? Car autrement, vous sentez, cousine, qu'elle pourrait parvenir à lui parler sans que j'en fusse instruite. Mrs. Fitzpatrick répondit qu'il l'avait menacée d'une autre visite dans l'après-midi, et que si Milady voulait lui faire l'honneur de passer chez elle, il était plus que probable qu'elle l'y trouverait entre 6 et 7. Et que dans le cas où il viendrait de meilleure heure, elle saurait bien, de manière ou d'autre, le retenir jusqu'à l'arrivée de Milady. Lady Bellaston répliqua qu'elle s'y rendrait aussitôt qu'elle aurait dîné, et qu'elle supposait que ce serait à 7 heures au plus tard. Car, ajouta-t-elle, il était absolument nécessaire qu'elle le connût personnellement. « Sur ma parole, madame, continua-t-elle, c'eût été très bien fait, dans tous les cas, de veiller avec autant de soin sur Miss Weston. Mais la simple humanité, aussi bien que ce que nous devons à notre famille, nous en fait à toutes deux un devoir. Ce serait en vérité un mariage détestable. » Mrs. Fitzpatrick ne manqua pas de faire une réponse convenable à ce que Lady Bellaston venait de lui dire, et après quelques petits mots insignifiants de part et d'autre, elle sortit, regagna sa chaise le plus promptement possible, sans avoir été aperçue ni par Sophie ni par Honora, et retourna chez elle.